Alors d'ici une ou deux minutes, nous allons commencer la rencontre, première rencontre, filigrane en histoire. Si vous êtes parmi nous et que vous ne saviez pas que nous allions organiser de façon bimensuelle des rencontres autour de récits, de romans, de livres historiques, merci de vous joindre à nous, puisque vous êtes là tôt ce samedi et que nous sommes ouverts jusqu'à 8h, non, 19h30, donc vous avez tout le temps de flâner par après. Ou alors vous vous joignez au fur et à mesure si vous êtes gêné, parce que la rencontre va commencer, va être filmée, vous pourrez la visionner d'ici 48 heures sur Filigrane TV. Je félicite Juliette pour cette première, l'encourage, parce que c'est pas facile d'organiser une première rencontre comme ça, boum, à brûle-point, sans l'avoir jamais fait. Merci Jean-Pierre Guénaud d'être parmi nous. Alors, courage, c'est parti.
On y va.
Voici chacun à son
tour. Est-ce qu'il l'a allumé celui-là ?
Est-ce que vous m'entendez ?
Oui.
Alors, Jean-Pierre Guénaud, en fait, s'est lancé dans une aventure éditoriale tout à fait intéressante qu'il a initiée il y a 12 ans avec Parole de Poilu, qui racontait à travers des lettres et des carnets la vie des soldats de la Grande Guerre. Et aujourd'hui, 70 ans après l'invasion de la Pologne par l'Allemagne, vous rassemblez des documents qui nous livrent votre vision de l'occupation en France à travers Parole de l'ombre. Et ce que vous dites souvent, c'est que plus qu'un historien, vous vous considérez comme un passeur d'histoire. Un passeur, est-ce que vous pouvez nous développer ça ?
Oui, ou plus exactement comme un passeur de mémoire. Je veille tous les ans, lorsque je déclenche ces collectes, auprès de tout un tas de publics francophones, en leur demandant de m'envoyer les plus belles lettres, les plus beaux journaux intimes, les plus beaux témoignages qui dorment dans leurs archives ou dans leurs têtes, et en privilégiant les témoignages rédigés dans le feu de l'action. Tant il est vrai que 10 ans, 20 ans, 30 ans après, on recompose. Il y a quelques poilus de 14 qui n'étaient jamais passés à Verdun et qui étaient de bonne foi en pensant qu'ils étaient passés à Verdun. Donc il faut se méfier de la recomposition. Mais je veille à transmettre tous les documents collectés, il y avait eu près de 10 000 lettres pour Parole de Poilu il y a 12 ans, à des institutions de mémoire. Je ne me définis pas vraiment comme un historien. Mon travail est avant tout un travail de passeur, un travail humaniste et littéraire. Je ne reconstitue pas des échantillons représentatifs des populations que je sculpte. Et donc, il est nécessaire que tout ce patrimoine collecté, y compris 90% de ce patrimoine qui n'est pas publié, car un livre, c'est toujours un choix, il est nécessaire, il est indispensable que ce soit sauvé de l'oubli. Donc, c'est en général légué à des institutions de mémoire qu'ont pu être, au fil des années, l'historial de la Grande Guerre de Péronne, le mémorial de Caen, le centre de documentation juive contemporaine et le mémorial de la Shoah, pour Parole d'étoile, ou encore l'APA, l'association pour l'autobiographie, qui est à Ambérieux. Il est nécessaire que ces corpus soient collectés, archivés, pour que les historiens, les sociologues, puissent y avoir accès au fil des ans. Alors l'idée des Paroles d'eux, elle est partie d'une idée toute simple, d'une sorte de pressentiment, c'est que les gens qui font l'histoire ne sont pas seulement ces têtes d'affiche qui figuraient lorsque nous étions enfants, adolescents ou étudiants dans nos livres de classe, c'est-à-dire dans les livres de l'histoire vulgarisée. Les vrais acteurs de l'histoire, ce sont ces têtes d'affiche, bien sûr, mais ce sont surtout, pour filer la métaphore cinématographique, ces figurants qu'étaient nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Et il faut bien dire que pendant des décennies, dans l'histoire moderne, ces figurants, on ne leur a pas vraiment donné la parole. Et il y avait un travers de certains historiens, qui est le travers de tous les spécialistes que nous sommes toujours les uns et les autres de quelque chose. C'est de penser que nous aurions le monopole de quelque chose, que nous serions incontournables, que nous serions des intermédiaires incontournables. Un passeur n'est jamais incontournable. Et le vrai passeur, c'est celui qui apprend à s'effacer au profit de ses témoins. Ma plus grande récompense, quand mes ouvrages débouchent sur des émissions de radio, sur des émissions de télévision, sur des dossiers comme le dossier de 10 pages qui était dans le Nouvel Observateur il y a 3 semaines, c'est quand ce sont les témoins qui sont mis en avant. Ce cahier de 10 pages était nourri essentiellement par les témoignages des témoins, Alors ça, c'est tout le sens de ce que je fais. Et ma petite personne, dans cette histoire-là, n'a qu'une importance secondaire. Et ce qui est frappant, quand on analyse ce qu'ont à dire ces témoins, ce qu'ils ont dit, écrit dans le feu de l'action, c'est que ça nous donne de l'histoire, de la vie dans l'histoire, grâce à leur mémoire, une vision qui n'est pas du tout donc celle qui était dans le livre de classe. Et il faut réagir, mais je pense que les historiens ont évolué dans ce domaine. Pendant longtemps, ils ont pu penser qu'ils étaient les intermédiaires obligatoires, qu'il n'était pas question de livrer des témoignages, des lettres, des journaux intimes directement au grand public. Mais que diable, ces lettres, ces journaux intimes qui nous viennent de nos parents, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, c'est-à-dire du peuple, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas, en prise directe, les restituer au peuple.
Voilà, mais c'est vraiment ce que vous faites, c'est-à-dire que ce livre-document nous permet de toucher l'histoire aussi, parce qu'il y a des facsimilés, des documents que l'on peut toucher, déplier, et qui vraiment constituent aussi la nouveauté, une sorte de démocratisation de l'histoire. Je voudrais qu'on rentre dans le livre, maintenant, un petit peu plus. Dès mai 40, c'est la défaite, en France, en tous les cas, en Belgique aussi, la France est occupée. Et il y a un premier document qui est tout à fait fascinant, c'est la carte officielle de la ligne de démarcation qui divise la France en deux, c'est-à-dire que vous avez au nord de cette ligne la France occupée et au sud la France libre. Et justement, à travers cette carte, il y a un personnage qui émerge et qui pourrait tout à fait incarner ce que vous venez de dire, des figurants de l'histoire, c'est le personnage du passeur. C'est un monsieur qui s'appelle André Goupille, qui vit en Touraine, tout près de la ligne de démarcation. Et donc, forcément, ce passeur, on en a besoin pendant la résistance. Ce sont les tout premiers éléments de la résistance. Et il y a des lettres de gens qui vont passer grâce à lui en zone libre et ensuite le remercier. C'est tout à fait fascinant que cette famille, qui ensuite a été, je crois, nommée juste de France au mémorial de Yad Vashem, cette famille Goupille a conservé ses documents, ses remerciements, et vous nous les restituez aujourd'hui. C'est vrai que c'est une histoire tout à fait émouvante et incroyable.
Alors ce sont des documents très rares. Vous aviez raison de dire que cette carte présente la zone libre, la ligne de démarcation. Elle présente aussi, et c'est quelque chose qui est important quand on est ici à Bruxelles, la zone interdite. Car il y avait en France, à partir d'une certaine limite, une zone interdite. C'était encore pire que la zone occupée. Et comme entre 14 et 18, d'ailleurs, la vie dans les zones interdites était encore plus épouvantable que dans les zones occupées. André Goupil était un vétérinaire. Et il utilisait sa profession de vétérinaire pour jouer au passeur, car évidemment, il avait à la fois des bons d'essence, il avait le droit de circuler pour faire son métier. Et très tôt, sans jamais demander d'argent, il a passé non seulement des gens, mais aussi du courrier. Les gens qu'il passait, eh bien, ce pouvaient être des soldats qui cherchaient à échapper à la captivité, ce pouvaient être des Sénégalais qui cherchaient à échapper à l'inimitié des nazis qui n'aimaient pas les Sénégalais, ça pouvait être des aviateurs ou des combattants qui cherchaient à s'évader, ça pouvait être des juifs. Et ce qui est hallucinant, c'est que tous ces gens-là passaient leur temps à remercier André Goupil, qui avait impliqué dans son rôle de passeur toute sa famille, sa femme et tous ses enfants, ses trois fils et sa fille Thérèse, qui est la seule qui soit toujours vivante aujourd'hui. Et donc, ils ont reçu, dans les années qui ont suivi, des centaines de lettres de remerciements. Et ils gardaient tout. Ce qui est frappant, c'est de voir à quel point la résistance brille par son amateurisme. Et c'est ça qui est formidable, en fin de compte. On a affaire à des amateurs, à des bricoleurs, qui ne prennent pas des précautions élémentaires. Il n'aurait jamais fallu garder tout ça. Les Goupils ont été dénoncés.
Et déportés.
Mais avant d'être déportés, ils ont été dénoncés par un couple de Yougoslaves qu'ils avaient sauvés et qui a pensé qu'ils allaient améliorer leur sort en les dénonçant. Ils n'ont pas amélioré leur sort car les SS les ont fusillés. Et là, quand les SS sont arrivés, la Gestapo est arrivée chez les Goupils, à la Haie des Cartes, en Indre-et-Loire, ils ont trouvé des tonnes de lettres de remerciement, donc leur cause était entendue. Ils ont tous été déportés dans les pires camps qui soient, Ravensbrück, Mauthausen. Et là où il y a un petit miracle, c'est qu'ils sont tous revenus. Ils sont tous revenus, et je vais vous lire quelques lignes d'une lettre qu'écrit Thérèse Goupil, elle qui est encore vivante aujourd'hui, car les autres, eh bien, la vie nous les a retirés.
Donc la fille d'André Goupil.
À la libération des camps, elle a été à Ravensbrück avec sa mère, elle a sauvé sa mère. Et on les envoie en Suède pour se requinquer parce qu'elles sont épuisées et que si on les transporte telles quelles, elles sont très faibles. Elle écrit à son père, qui lui-même sort de Mauthausen, comme ses frères. Et elle lui écrit, on est en 45, à l'ouverture des camps, en lui disant, ben voilà, je te ramène maman. Et écoutez bien le post-scriptum qui suit cette lettre de 6 lignes. Mon cher petit papa, bientôt, je vais t'embrasser et te ramener maman. Ah, mon papa, je suis heureuse. Toutes nos souffrances seront oubliées dès que ma petite fille, c'est ton Jeannot, et moi, nous aurons reçu de tes nouvelles et aussi des garçons, de grand-mère, des tantes, de Jaco, de tous et toutes. J'ai hâte de rentrer en France, mon petit papa. J'espère bientôt. En attendant, je t'embrasse de tout mon cœur ainsi que ceux qui sont autour de moi, Elisabeth. Et elle met en post-scriptum pour évoquer ce qu'elle vient de vivre à Ravensbrück, dans ce camp où toutes les pensionnaires étaient violées par les SS, car Ravensbrück servait de bordel aux soldats SS, dans ce camp où l'appel se faisait à 4h30 le matin et où, été comme hiver, dans le froid, sous la pluie, les gens étaient dans leurs pyjamas rayés et pendant 2 heures attendaient que les SS se réveillent pour l'appel qui avait lieu 2 heures plus tard. Et quand un seul d'entre eux trébuchait, il était dévoré par les chiens qui étaient dressés pour dévorer les prisonniers quand ils avaient une faiblesse. Elisabeth Goupil rajoute un post-scriptum à la fin de cette lettre dans laquelle elle dit à son père « Je te ramène maman » et elle lui dit post-scriptum « J'ai grandi, 3 points. J'ai grandi.
Ben, » en fait, ce que je remarque, c'est que contrairement à certains historiens, en tous les cas, il y a quelque chose que vous intégrez pleinement dans votre livre, c'est la dimension émotionnelle, qui souvent est rejetée, qui pose problème en tous les cas, parce que souvent on a une lecture un petit peu froide de l'histoire à travers des analyses, des synthèses, des chiffres. Et effectivement, ces lettres, ces papiers qu'on peut sortir, déplier. Là, j'ai sous les yeux le
brouillon de l'appel du 18 juin.
Le brouillon de l'appel du 18 juin du général de Gaulle avec son écriture élégante et rapide. Voilà, vous rapportez la dimension émotionnelle de l'histoire et vous, pour vous, ça pose aucun problème, ça. Je dirais même au contraire.
Il y a en France, parfois, dans le beau pays qui est le mien, un élitisme de mauvais aloi. Et très souvent, les adeptes des sciences humaines, que sont les littéraires, les historiens ont des complexes. Ils voudraient que leurs sciences soient des sciences exactes. L'histoire, la littérature ne sont pas des sciences exactes, ce sont des sciences humaines. Alors quand on a des complexes par rapport aux sciences dites dures et qu'on est un adepte des sciences dites molles, on a 2 façons de sublimer ces complexes, très dangereuses l'une et l'autre, car tout à fait antipédagogiques. La première consiste à jargonner. J'ai beau être normalien de formation, en CM2, c'est-à-dire à l'école primaire, je ne comprenais plus les cours de grammaire de mon fils. En CM2. Parce que ces cours de grammaire avaient été envahis, cannibalisés par le jargon de la linguistique, un peu comme les maths modernes, et qu'on ne comprenait plus rien. Et puis il y a une deuxième tendance perverse. C'est de vider l'histoire de toute sa part de mémoire, et en particulier de sa part d'émotion. Car l'émotion, c'est pas scientifique. Mais oui, mais c'est comme ça qu'on finit par déboucher sur des comptes rendus d'autopsie. C'est comme ça que, dans certains cas, on finit par déboucher sur des encéphalogrammes plats, sur des choses dans lesquelles la vie n'est plus. Et c'est peut-être comme ça qu'on a pu, pendant quelques décennies, dégoûter de la poésie, de la littérature et de l'histoire des générations d'écoliers, de collégiens et de lycéens.
Bon, bah là, en tout cas, vous remettez l'histoire entre nos mains. Et on a parlé de la résistance. Je voudrais qu'on parle de l'autre facette de la France de l'occupation, c'est-à-dire la collaboration, la France de Vichy, à travers ce chapitre sur la Révolution nationale, où, à l'opposé de cette figure du passeur, on a la figure du dénonciateur, et on a ici la reproduction d'une lettre de dénonciation, comme il y a eu beaucoup en France, d'un groupe de Français, voilà, qui dénonce un certain Jauberti André, 19 rue Porte-Basse, qui mène une activité très cachée, mais certaine et qui peut nous porter encore plus de préjudice. Votre livre n'occulte bien sûr pas toute cette part d'ombre. Et est-ce que vous avez d'autres extraits à nous lire pour nous montrer toutes les facettes de cette France occupée ?
Alors l'ombre, c'est l'ombre protectrice, c'est l'ombre de la résistance, mais c'est aussi l'ombre hostile, l'ombre des cachots, l'ombre de ces idéologies qui ont mené le monde là où il s'est aventuré. La première chose que montre Parole de l'ombre, c'est que l'ombre n'a pas attendu 1939 pour s'enraciner sur les terres de l'Europe et sur les terres du monde. C'est venu bien plus tôt, et là encore, ce qui est frappant, j'ai vécu la même aventure qu'avec Parole de Poilu. C'est-à-dire que le fait d'auditer la mémoire du peuple vous met dans une certaine posture qui vous incite à poser vos stéthoscopes d'une certaine façon. Et ce que vous faites pour ce que vous recevez par courrier, par le web, tous ces témoignages, ces lettres, ces journaux intimes...
Oui, parce que je rappelle que vous avez fait un appel
voilà,
par la radio.
Voilà, c'est toujours un appel au peuple par le biais de la radio et par voie de presse, par le Nouvel Observateur, par Ouest France. Mais vous le faites aussi, ce travail d'écoute, en relisant tout ce qui a pu être écrit, soit par des historiens, soit à l'époque. Et alors, quand on lit certaines choses, on a quelques surprises. Je vais en donner une seule. Hitler faisait partie de ces hommes politiques qui avaient l'habitude d'annoncer ce qu'ils allaient faire et qui faisaient toujours ce qu'il avait annoncé qu'il ferait. Il tenait ses tristes promesses. Je finis par préférer les hommes politiques peu fiables, parce que, somme toute, ils sont presque réconfortants. Et Hitler a parlé très tôt, dès 1919. J'aurais pu vous citer son interview de 1919, j'ai préféré celle de 1922. Il répond à un certain Joseph Hell, qui est un ancien major de l'armée allemande, qui a été poilu en 14, qui est devenu journaliste, et qui ensuite deviendra anti-nazi et aura de gros problèmes avec le régime nazi. Joseph Hell, nous sommes en 1922, bien avant Mein Kampf.
Mein Kampf, c'est 33 ?
Oui, c'est dans les années 30. Il pose une question toute simple à Hitler. Il lui demande, quand vous aurez les pleins pouvoirs, que ferez-vous des Juifs ? Et voilà ce que lui répond Hitler. Lorsque je serai réellement au pouvoir, ma toute première tâche consistera à annihiler les Juifs. Dès que j'aurai la possibilité de le faire, je ferai construire à la Marienplatz de Munich, par exemple, autant de rangées de potence que la circulation le permettra. Puis les Juifs seront pendus sans discrimination, et ils resteront pendus jusqu'à ce qu'ils puent. Ils resteront pendus tant que les principes d'hygiène le permettront. Dès qu'on les aura détachés, ce sera au tour de la prochaine fournée, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le dernier Juif de Munich ait été exterminé. On agira séparément d'eux-mêmes dans d'autres villes, jusqu'à ce que l'Allemagne ait été complètement nettoyée des Juifs. Le propos est monstrueux, il est glauque, il est d'une violence incommensurable. On est encore dans l'artisanat, on n'est pas encore dans l'aspect industriel de la solution finale, mais c'est quelque chose de terrible. Et en auditant cette part de la mémoire très ombreuse, j'ai fait une autre découverte toute bête. J'avais beau avoir arrêté mes études assez tard, il y a un chiffre que je n'avais pas en tête. Lors du procès de Nuremberg, le président du jury du procès de Nuremberg a audité les trois généraux qui, pendant toute l'épopée nazie, depuis les années 30 jusqu'à la fin des années 45, ont été les grands maîtres de l'armée nazie. Il y avait trois généraux qui étaient le général Kettel, le général Jodl et le général Halder. Les trois sont au secret, ils ne peuvent pas se concerter. Et pendant les séances publiques, le président du jury au tribunal de Nuremberg va leur poser la même question. Y a-t-il un seul moment dans toute votre carrière de soldat et de généraux où vous ayez été en désaccord avec Hitler ? Les trois vont répondre la même chose. Sans s'être concertés, on pourrait s'attendre à ce qu'ils répondent en parlant de la Shoah pour se dédouaner, car l'un des trois a quand même signé les décrets Nachtunnebel. Pas du tout. Tous les trois répondent la même chose. Ils disent que le seul moment de désaccord qu'ils aient pu avoir avec Hitler, c'est l'invasion de la Pologne. Pourquoi, leur demande le président du jury ? Ben, c'est très simple. On était sûr de perdre. Seulement Hitler était le patron, donc il a eu du gain de cause. Il était le seul à faire le pari de la lâcheté des Européens. Et c'est lui qui a eu raison. Mais pourquoi ne vouliez-vous pas ? Eh bien, c'est très simple. Et je vous lis les cinq lignes du témoignage de l'un des trois, qui est Alfred Jodl. « Si nous ne nous sommes pas effondrés, en 1939 et que vous allez entendre les chiffres qu'il cite, vous allez pleurer, rétrospectivement. Cela est dû au fait que pendant la campagne de Pologne, les quelques 110 divisions françaises et britanniques à l'ouest ont été maintenues dans une inaction complète en face de nos 23 divisions allemandes. Et dans ce témoignage, on vous fait la charité de ne pas citer l'existence des 23 divisions polonaises. Ça veut dire que les forces en présence, c'est pas 23 contre 40, c'est pas 23 contre 80, c'est 23 contre 110. Donc à la moindre réaction des forces anglo-britanniques, il n'y avait plus d'armée nazie, il n'y avait plus de Seconde Guerre mondiale, il n'y avait plus rien. 39. Ça, ça fait pleurer.
Effectivement, mais le contexte mondial, si on remonte à tout simplement à la sortie de la Première Guerre mondiale, avec le traité de Versailles, qui impose à l'Allemagne le diktat de Versailles, et qui crée ce ressentiment en Allemagne qui fait qu'elle n'aura de cesse de vouloir se reprendre sa place et rentrer dans une Deuxième Guerre mondiale. Je pense aussi aux accords de Munich de 1938. Enfin, il y a tout un échiquier mondial qui fait que, évidemment, une guerre... Enfin, on ne peut jamais prévoir l'histoire, mais enfin, la situation n'était pas favorable pour la paix, malgré les efforts de beaucoup. En tous les cas, je pense que il y a une ambivalence, il est clair, du côté de tous les Européens, que ce soit les Anglais, mais que ce soit aussi les Français. Et on le voit à travers les parcours personnels des gens qui n'ont pas toujours été résistants de la première heure, qui ont fini par le devenir, ou qui ont retourné leur veste. Et effectivement, je pense à la figure de François Mitterrand qui illustre assez bien cette ambivalence qu'il y a pu y avoir pendant toute cette période et qui doit nous empêcher, je pense, de jeter un regard trop manichéen aussi sur cette période. Comment est-ce que votre livre, avec tous ces témoignages, nous permet de montrer comment notre perception de l'occupation a évolué de manière un petit peu plus... en relativisant certaines choses
Il faut se méfier...
En comprenant la part d'ombre et la part de lumière.
Voilà, il faut se méfier des jugements a posteriori, quand on a du recul, quand on a une vision qui paraît plus nette des choses et se remettre dans le contexte de l'époque. Bien évidemment, la France de la fin des années 30 est une France triplement traumatisée. Traumatisée par la Première Guerre mondiale, qui a fait d'énormément de poilus des pacifistes à tout craint, qui ne peuvent même pas imaginer qu'un jour les choses recommencent. C'est pas possible. Ils ont vécu le cauchemar une fois. Est-il possible de vivre un cauchemar absolu deux fois dans sa vie? C'est pas sûr. Cette guerre a été couronnée par la grippe espagnole qui est venue après et qui a tué autant de monde, sinon plus, que la guerre n'avait déjà fait de victimes. Et puis, cerise sur le gâteau, il y a eu la grande crise de 1929. Donc ces traumatismes multiples font que les gens ont un formidable et irrépressible désir de paix au moment où les choses vont à nouveau tourner au vinaigre. Alors, on n'a pas de leçons à donner. On ne sait pas du tout les uns et les autres, quand nous sommes nés après ces périodes, comment nous aurions réagi. Qu'est-ce qu'il y avait dans la France de 1939 et dans la France des années 40-45? Au maximum, 300 000 résistants purs et durs. Au maximum, 300 000 collaborateurs purs et durs. Et puis la grande masse, 40 millions de Français. Des gens qui essayaient tout simplement de survivre, de continuer à vivre, d'élever leurs enfants, de ne pas mourir de faim, de voilà. Et là, l'utilité merveilleuse des témoignages, des lettres, des journaux intimes écrits dans le feu de l'action, c'est qu'on perd cette vision très dangereuse, qui est parfois celle de l'histoire vulgarisée, qui est une vision qui est faite pour nous endormir, pour nous anesthésier, pour nous rassurer. L'histoire est toujours quelque chose qui est subversif. Et si l'histoire ne reste pas subversive, alors elle n'est plus cette matière merveilleuse qui permet d'éduquer à la fois les masses et les individus. Car la première leçon de l'histoire, c'est qu'elle devrait éveiller en permanence notre méfiance. On va se garder de faire des rapprochements abusifs, mais les relations que la France entretient avec la Chine depuis l'an 2000 sont des relations essentiellement dictées par des intérêts mercantiles. En 1932, quand André Suarez cherche à publier les pamphlets qu'il écrit contre Hitler, contre Staline, contre Mussolini. Personne ne veut le publier. C'est pourtant un intellectuel de grand renom. À gauche comme à droite, dans la presse, personne ne veut le publier. Dans l'édition, il a le plus grand mal. Il essaye de rassembler les chroniques qu'il est arrivé à faire passer par miracle. Dans un livre, en 35, publié chez Grasset, Grasset va l'inciter à ne pas publier son livre. On va le tirer à quelques centaines d'exemplaires, on va le bouillonner. Le livre ne paraîtra qu'en 39, beaucoup trop tard. Ce livre, qui s'appelait « Vue sur l'Europe », il était visionnaire. Dès le début des années 30, Suarez prédit tout ce qui va se passer. Et pourquoi on le censure ? Je cite, parce qu'on lui dit « Mais mon cher André, vous allez nuire aux bonnes relations commerciales franco-allemandes ». Voilà. Déjà à l'époque, on faisait du business. Il faut jamais oublier qu'un homme comme Hitler n'aurait jamais pu bâtir son empire de guerre sans capitaux. Il faut jamais oublier que les capitaux sont venus du monde entier. Ils sont venus de France, ils sont venus des États-Unis, ils sont venus d'Angleterre. Il y a aussi des capitaux juifs qui ont servi à l'empire nazi pour bâtir son empire. Donc il faut jamais oublier ça. Il y a une responsabilité beaucoup plus collective qu'on ne le croit. Et il s'agit pas d'extrapoler, mais simplement de se dire que on n'a peut-être pas été assez vigilant dans les années 30. Il y a peut-être des moments où aujourd'hui, depuis l'an 2000, on n'est pas assez vigilant non plus.
Alors, vous parliez de la difficulté de vivre sous l'occupation. On retrouve dans votre livre des tickets de rationnement, des tracts qui expliquaient aux Français comment tirer le mieux parti d'un animal qui était très important, c'était le lapin. Alors voilà, le lapin, on pouvait le manger, on pouvait en faire des fourrures. Et ce genre de documents aussi que l'on retrouve dans le livre, qui nous mène là non pas dans la politique, mais tout simplement dans la débrouille. Comment est-ce que les gens ont utilisé ce qu'on appelait le système D pour survivre ?
Dans la vie quotidienne, et ça c'est très important, les éléments dérisoires de la vie. Je vais vous en citer un qui n'est pas dans ce livre, qui sera dans un des prochains livres. En 1944, en octobre 1944, un admirateur écrit à Pétain, mais il lui écrit un peu trop tard. Alors il écrit, monsieur le maréchal Pétain, hôtel du parc, Vichy. Ben oui, l'Élysée de l'époque, c'est Vichy. Bon, et c'est l'hôtel du parc. Seulement, à l'époque, je vous rappelle que Pétain a été enlevé par les nazis, il est à Sigmaringen, et les nazis rêvent de voir Pétain monter un gouvernement sauvage, un peu comme De Gaulle l'avait fait à Londres en 40. Pétain, d'ailleurs, va refuser. Alors, l'enveloppe arrive à Vichy, il est trop tard, on est en octobre 44. Donc, l'administration la renvoie à son expéditeur avec un magnifique tampon, parti sans laisser d'adresse. C'est sublime, c'est sublime. Dans ces document dérisoire de la vie, il y a une très grande part de vie, justement, de vérité, qui doit être absolument réintroduite dans l'histoire. Alors, Laurent Beccaria a voulu qu'on aille plus loin. Depuis le début de...
Laurent Beccaria, qui
est le patron des éditions des Arènes.
Des Arènes, où le livre est publié.
Depuis que nous avons créé cette collection, que j'avais créée avec Talendier en 98, et puis qui a évolué grâce aux Arènes dès le deuxième volume qui avait pour titre « Parole de détenu », nous avions un parti pris avec un metteur en image qui a toujours été le même depuis le départ, Jérôme Pecknard, c'était de donner aux documents une très grande vraisemblance. Il y a beaucoup de ces documents qui, même quand ils ne sont pas sous forme de facsimilé, on ne peut pas s'empêcher de poser son doigt dessus parce qu'on s'attend à ce qu'ils se décollent de la page, tellement ils crèvent la page, tellement ils crèvent l'écran d'une certaine façon. Et cette année, Laurent a voulu aller plus loin. Il a dit « mais il y a de plus en plus de temps qui sépare les jeunes générations de ces faits ». Alors, on va aller encore plus loin. On va pas seulement leur montrer les documents de façon très frappante, on va leur permettre de les toucher, de les déplier, de les sortir de leurs enveloppes. Et là, il y a certains de ces documents, il y a ceux que vous citiez, liés à la vie quotidienne, il y en a d'autres qui sont frappants, parce que il y a par exemple ce manuel scout. Alors, quand vous regardez le document de l'extérieur, c'est un manuel scout. Un peu pétainiste sur les bords, parce que une partie des scouts était résistant, une partie des scouts était un peu travail, famille, patrie. C'est logique. Bon. Alors, quand on regarde ça, quand on regarde la couverture, c'est un document bien conventionnel, bien rangé. Oui, mais quand vous l'ouvrez...
C'était vraiment une couverture, en fait.
C'est une couverture. Quand vous l'ouvrez, c'est un manuel du parfait terroriste, du parfait résistant. Vous y apprenez comment fabriquer des grenades, des explosifs, comment démonter, nettoyer, remonter une mitraillette anglaise. Donc voilà, c'est quelque chose d'hallucinant. Dans ces documents, il y a des choses très fortes. Nous vivons aujourd'hui, parce que à quoi bon regarder le passé ? C'est pas pour se faire plaisir. C'est simplement pour aujourd'hui donner des points de repère aux gens qui en ont besoin. Et puis, on n'a pas de leçon à donner à personne, mais on peut au moins faire une chose. C'est entretenir le souvenir, entretenir la mémoire, confier notre admiration à ceux qui ont su résister, qui étaient une toute petite minorité, parmi lesquelles il y avait beaucoup de femmes.
Mais justement,
et parmi lesquelles il y avait beaucoup d'étrangers. Ces étrangers que parfois on réaccompagne à la frontière aujourd'hui, on oublie trop souvent qu'en 1942, quand De Gaulle et ses collaborateurs font le bilan pour savoir de quelles troupes sont composées la France libre en 1942, vous avez 70% des Français libres qui se battent en Afrique ou ailleurs, qui sont des Noirs ou des Maghrébins.
Les troupes coloniales.
Les troupes coloniales. Vous avez 10% qui sont composés par la Légion étrangère, donc là vous arrivez à 80%, et vous avez 20% de franco-français au sens normand du mot. Hein, bien, voilà. Donc vous voyez, il faut se méfier de tout un tas de choses. Ces gens dont on a l'habitude, dont parfois des gens qui ont l'esprit étroit disent qu'ils viennent manger le pain des Belges ou le pain des Français, que sais-je. Ces gens-là, il ne faut pas oublier qu'on leur doit une bonne partie de notre liberté.
Vous parliez des femmes, je voudrais qu'on dise un mot des figures de femmes qui émergent dans le livre, parce que c'est vrai qu'on a souvent eu une image des femmes résistantes cantonnées aux fonctions d'intendant, c'est-à-dire
de cantinière, voilà, ou d'agent de liaison.
Faire à manger, soigner,
alors ces femmes,
dormir.
Alors, on va y venir. Un dernier mot donc sur les facsimilés. Ils ont pour effet justement de rendre les choses encore plus présentes. Les femmes maintenant. Après la guerre, beaucoup d'historiens, une partie des historiens qui ont fait leur magnifique métier, étaient de formation communiste. Il faut jamais l'oublier. Et parmi eux, il y en a qui étaient sous l'égide de certaines contradictions. Il faut jamais oublier que la Seconde Guerre mondiale, c'est le deuxième cauchemar du XXe siècle, et que pour abattre ces cavaliers de l'apocalypse, qui étaient des gens comme Hitler, Staline, Mussolini, Franco... Eh bien, pour abattre l'un des plus dangereux, l'un des plus venimeux, à savoir Adolf Hitler, on a quand même pactisé avec l'un des autres, qui s'appelait Joseph Staline.
Il faut attendre 1989 pour s'en débarrasser.
Alors ça, il ne faut jamais l'oublier. Donc, certains historiens, et ça c'est le travail de deux historiennes fabuleuses qui l'ont montré depuis 10 ans, ont eu tendance à faire deux choses quand ils ont écrit l'histoire de la résistance. Ils l'ont virilisé et ils l'ont nationalisé. Virilisé parce que après les guerres, les femmes, on les renvoie au foyer. Hein ? Ça suffit comme ça, elles ont été un peu trop actives, donc on les rappelle au règlement. C'est un peu effrayant, j'ai fait un parole de femme il y a 2 ans, et c'était pas pour rien, et on est encore loin du bout du chemin. Et puis surtout, on a nationalisé la résistance. Parce que qui ont été les résistants de la première heure ? C'était des Allemands, des Juifs allemands, qui fuyaient le nazisme, c'était des Juifs d'Europe centrale, qui fuyaient les pogroms, c'était des Espagnols. Bref, c'était des gens venus d'ailleurs qui savaient le prix de la liberté et qui, de façon très généreuse, ont été parmi les premiers à vouloir aider la France à se défendre. Voilà. Donc ça, c'est merveilleux. Et alors, parmi ces personnages, il y a un personnage auquel je n'ai pas pu consacrer assez de place, et je reviendrai sur elle, qui s'appelait Violette Szabo. Violette Szabo, elle est en dernière de couverture du livre. On voit sa photo, sa petite photo comme une photo d'identité en
belle,
couleur.
Belle comme Ingrid Bergman.
Elle était belle comme le jour. Elle a failli être recrutée par Hollywood, d'ailleurs, parce qu'elle avait vraiment le physique. Elle est vendeuse chez Guerlain à Londres, en 1939. Cette jeune femme, qui est belle comme le jour, est la fille d'un couple franco-anglais. Elle a, je ne sais plus dans quel sens, elle doit avoir un père anglais, une mère française. Quand la guerre éclate, elle sympathise très vite avec un officier de la France libre qui est d'origine hongroise, qui s'appelle Szabo. Et elle va l'épouser en 1941. Et le pauvre Szabo, son mari, il est tué à la bataille d'El Alamein. Il est officier de char dans la France libre et il est tué en faisant son travail d'officier. Et donc elle se retrouve veuve et après sa dernière permission, elle s'est rendue compte du fait qu'elle était enceinte et elle accouche d'une petite fille. Et là, elle devient une proie, si j'ose dire, de choix pour les services secrets anglais, qui disent « mais cette femme a tout pour elle. Elle est franco-britannique, elle est totalement bilingue, elle est belle comme le jour, elle est très sportive, et puis surtout, elle a envie de venger son mari. » Et Violette Szabo va devenir une figure du SOE, les services d'espionnage anglais absolument magnifiques. Elle va se couvrir de gloire en étant parachutée par 2 fois après le débarquement, en faisant son travail d'agent. Et elle va être prise par les troupes SS lorsqu'elle remonte vers la Normandie, la division d'Astreich. Elle va être prise par les troupes SS dans une bataille rangée. Les troupes SS recherchent les gens qui ont oxy un des hauts dignitaires de la division d'Astreich. Et il va y avoir des dégâts collatéraux. Il va y avoir Oradour-sur-Glane. Et il va y avoir l'épisode de Violette Svabo, qui après une bataille rangée va être prise vivante, horriblement torturée, violée, et puis ensuite envoyée à Ravensbrück. Et 3 jours avant la libération de Ravensbrück, avec 2 autres jeunes femmes anglaises, agents comme elle, elle a été assassinée d'une balle dans la nuque sur l'ordre de Berlin par le commandant du camp. Cette femme est admirable, vous n'aviez jamais entendu son nom. Eh bien voilà ce qui fait partie des grandes injustices. Il y a des femmes admirables dont on n'a jamais entendu le nom.
Oui, donc l'hommage à Violette Sabot, on le retrouve à travers les extraits du récit de Jacques Dufour, qui était compagnon de Violette Sabot lors de sa dernière mission et qui raconte le courage dont elle a fait preuve lorsqu'elle a été capturée. Puis il y a une autre chose dont je voudrais qu'on parle, c'est une lettre qui ne figure pas dans ce livre, mais qui pourrait tout à fait y figurer parce que ses compagnons ont été arrêtés en même temps que lui. Je pense notamment à Jean-Pierre Timbaud. C'est la lettre de Guy Moquet, qui était ce lycéen communiste arrêté en 1940 gare de l'Est alors qu'il distribuait des tracts résistants. Et il est capturé avec plusieurs de ses compères. Il est interné au camp de Châteaubriand. Et il est ensuite, alors que peut-être il aurait pu être libéré, il est fusillé avec ses comparses en représailles à l'assassinat d'un colonel allemand. Cette lettre de Guy Moquet ne figure pas. Il y a la lettre de Jean-Pierre Timbaud qui figure. Il y a eu toute une polémique autour de la lettre de Guy Moquet parce que le président Sarkozy souhaite qu'elle soit lue par tous les professeurs à la rentrée. Est-ce que vous, si vous étiez professeur, vous liriez cette lettre à vos élèves?
Je vous en lirai une autre que je vais vous lire dans une minute. Je vous en lirai une autre parce que malheureusement, je ne suis pas sûr que Nicolas Sarkozy ait été très bien conseillé quand il a choisi cette lettre. Parce qu'il a mis les doigts dans un phénomène complexe. Le pauvre Guy Moquet, ça ne retire rien à son incandescence et à son mérite, quand il est arrêté, n'est pas un résistant. C'est un jeune lycéen communiste qui ensuite va être pris en otage et qui va servir d'otage et qui va être assassiné parce qu'il y a dans l'entourage de Pétain des gens qui détestent le père de Guy Moquet, qui est un homme politique communiste et qui déteste les communistes. Mais quand le pauvre Guy Moquet est arrêté, il a des tracts anti-anglais dans les poches. Quand il est arrêté, les soviétiques sont encore les alliés des nazis.
On est en plein pacte germano-soviétique.
Donc il est dans une position frondeuse d'un lycéen qui se rebelle, mais il n'est pas encore dans ce qu'on pourrait appeler la position d'un résistant dans laquelle il n'a jamais été, car le Guy Moquet fusillé, c'est un otage. C'est pas un résistant au sens où on l'entend ensuite. Ce ne sont pas les résistants communistes qui ensuite basculent tout bonnement vers la résistance traditionnelle à partir du moment où ils sont libérés de certaines ambiguïtés avec le régime de Moscou qui au départ est l'allié des nazis. Il faut jamais oublier.
À partir du moment où l'Allemagne envahit l'URSS.
Donc ça ne retire rien à la tragédie du pauvre Guy Moquet. Ce que je voudrais dire sur ce que nous enseignent ces lettres. Elles ont quelque chose de merveilleux. Nous vivons aujourd'hui dans ce que j'ai appelé dans un de mes livres la société du tout à l'ego, dans une société du narcissisme exacerbé. Et que nous enseignent ces paroles de l'ombre? Que nous enseignent ces lettres de fusillés, de torturés? Elles nous enseignent le fait que des gens ont été capables, jusqu'à leur dernier souffle, de penser aux autres, de se tourner vers les autres, de sacrifier leur vie aux autres, de se tourner vers eux à corps et à cœur perdu. Ça, dans cette société de masse où l'individu triomphe en tant que consommateur, ben c'est une chose qu'il faut rappeler. Et je vais vous lire la lettre qu'en ce qui me concerne, si j'avais conseillé Nicolas Sarkozy, j'aurais conseillé de lire et de faire lire dans les classes. C'est pas une lettre, c'est un poème, mais c'est une lettre, d'une certaine façon. C'est écrit par une jeune femme qui s'appelait Marianne Kohn. Marianne Kohn était une juive allemande qui avait fui avec ses parents les persécutions nazies dès 1934. Ses parents s'étaient exilés en Espagne, et puis quand les choses ont mal tourné avec Franco en France. Marianne a rejoint la résistance très tôt, et elle a passé toute la guerre alors qu'elle était juive allemande et donc dans le collimateur, au lieu de se tenir tranquille, au lieu de se cacher, elle a passé toute la guerre à exfiltrer des petits-enfants juifs vers la Suisse. Elle a été arrêtée une première fois, en 1943, tabassée, torturée, mais on n'avait pas assez de charges contre elle. Et là, du fond de sa cellule, elle a écrit un premier poème, que voilà. Marianne, elle avait mis au point une technique pour pas craquer sous la torture. Vous savez, on dit toujours des fonctionnaires paresseux ou des gens paresseux sur le plan professionnel que ce sont des gens qui remettent au lendemain ce qu'ils pourraient faire aujourd'hui. Eh bien, cette tactique-là, c'est celle que Marianne a mis au point pour ne pas craquer sous la torture. À chaque fois, elle se disait « Je trahirai demain, pas aujourd'hui ». Et grâce à ça, elle trahissait jamais. Et voilà le poème de Marianne, écrit en novembre 1943, lors de sa première arrestation. « Je trahirai demain, pas aujourd'hui ». Aujourd'hui, arrachez-moi les ongles, je ne trahirai pas. Vous ne savez pas le bout de mon courage, moi je sais. Vous êtes cinq mains dures avec des bagues, vous avez aux pieds des chaussures avec des clous. Je trahirai demain, pas aujourd'hui. Demain, il me faut la nuit pour me résoudre. Il ne me faut pas moins d'une nuit pour renier, pour abjurer, pour trahir, pour renier mes amis, pour abjurer le pain et le vin, pour trahir la vie, pour mourir. Je trahirai demain, pas aujourd'hui. La lime est sous le carreau. La lime n'est pas pour le bourreau. La lime n'est pas pour le barreau. La lime est pour mon poignet. Aujourd'hui, je n'ai rien à dire. Je trahirai demain. Marianne a été libérée après avoir écrit ce poème, faute de charges suffisantes contre elle. Le problème, c'est qu'elle a repris son activité de plus belle et qu'elle a été arrêtée le 31 mai 1944 du côté d'Annemasse, alors qu'elle convoyait 28 enfants juifs vers la Suisse. Là, il se trouve qu'elle avait dans la région où elle a été arrêtée le plus grand patron de la résistance juive en France, qui avait suffisamment de moyens de pression sur le commandant nazi de la région, de la Wehrmacht, pour faire libérer Marianne. Elle a refusé. Elle a dit non, si je m'échappe, ils vont se venger sur les enfants. Alors les choses auraient pu s'arrêter là. Mais le problème, c'est qu'elle était sur les terres de Klaus Barbie, Marianne, et que deux jours après ce refus d'évasion, il y a deux sbires de Barbie qui sont venus chercher Marianne. Et là, les choses ont très mal fini. On a retrouvé, quelques semaines plus tard, le corps de Marianne dans une fosse commune. Elle avait été torturée, violée et assassinée à coups de bêche. Marianne avait 18 ans.
Effectivement, ça force l'admiration. Alors, on s'approche de la fin de la guerre et il y a toute une partie qui est consacrée à la libération, à la découverte des camps aussi, avec des dessins qui sont remarquables de René Baumann qui décrit la libération des camps qui était tout sauf un moment joyeux. C'est vrai que souvent, on a l'image d'une libération joyeuse, mais ça a été des moments extrêmement éprouvants. Et effectivement, il y a aussi une ambivalence de la libération en France, parce que ça a été la période de l'épuration aussi. Le livre n'en parle pas énormément de l'épuration. Est-ce que des femmes tondues, notamment, est-ce que c'était volontaire ou...
Non, il se trouve que j'avais zoomé sur ce phénomène dans Parole d'étoile, et aussi dans Parole du jour J. Alors, comme les livres se suivent et qui sont toujours, ne serait-ce que sous leur forme, au format de poche disponible, on peut retrouver dans Parole du jour J et aussi dans Parole d'étoile ce phénomène et ces dérapages d'après la libération. Parce que la vraie troisième mi-temps du débarquement, elle s'est jouée pendant la bataille de Normandie et elle s'est jouée dans tous ces dérapages et dans une partie de l'épuration qui a suivi et qui a fait beaucoup plus de victimes que le jour du débarquement lui-même. Et puis la place dans un livre est toujours limitée et j'avais des histoires très fortes liées à ces sujets que vous venez d'évoquer, mais pas assez de place pour les traiter. Et là, je n'avais pas le droit de trahir mes témoins, donc ce sont des documents que je vais traiter d'une autre façon. Il y a un document absolument magnifique dans ce livre, qui est l'histoire du petit Michel Emmerich. Et ça devrait entretenir notre vigilance tous les jours, aujourd'hui, demain, après-demain, vis-à-vis de la propagande, vis-à-vis de la communication quand elle est au service de la propagande, quelle qu'elle soit. En 1943, le régime de Vichy a fait une saloperie immonde. Il a organisé un concours épistolaire tourné vers les enfants de prisonniers. en disant aux enfants de prisonniers, ben voilà, il y a un concours, c'est le concours de la plus belle lettre à papa. Il y aura une quarantaine de lauréats pour l'ensemble du territoire. Et le prix à gagner, c'est que papa, on va le sortir de son trou, de son stalag, et il va venir passer les fêtes de Noël 43 à la maison. Oui, mais le problème, c'est qu'après, on le renverra dans son trou, papa. Et là, il y a le petit Michel. Michel, c'est un petit garçon qui avait 3 ans quand son père a été fait prisonnier. Donc, il n'a jamais vu son père. Pour lui, son père, c'est un mythe. Et puis, la mère de Michel, qui est lyonnaise, elle aimerait bien voir son mari. Ça fait 3 ans. Elle est toute jeune. Elle a 23 ans. Ça fait 3 ans qu'elle n'a pas vu son mari. Donc, elle va aider Michel. Elle va lui prendre la main. Il a 6 ans. Et il va écrire, Michel, la lettre que je vais vous lire, qui est assez charmante. Et il va être un des 40 lauréats pour toute la France. Il écrit ça en octobre 43. « Mon petit papa, quand tu es parti à la guerre, j'étais un bébé. Maintenant, je vais à l'école et j'essaie d'écrire tout seul. Si j'étais encore plus grand, je monterais dans un avion pour aller te chercher. J'ai tant besoin de toi, mon petit papa. Tu sais, j'ai beaucoup, beaucoup de jouets cassés. Maman me dit toujours, papa les réparera. Tu pourras bien dire. Et puis, le temps me dure que tu fasses marcher tes machines si grosses. Tu me feras des petits outils. Je veux t'aider comme un homme. » J'ai demandé au petit Jésus qu'il m'envoie mon papa en permission avec mes jouets de Noël. Mais je suis tellement polisson que tu seras peut-être encore là-bas. Et je te dis, joyeux Noël quand même, mon papa. Surtout si tu viens, n'oublie pas d'acheter une petite sœur pour les étrennes de maman. Moi, je n'ai pas de sous dans ma tirelire. Un gros baiser de ton petit garçon qui t'aime bien, Michel Hébric. J'ai vécu, grâce à cette lettre, une de mes plus belles expériences d'éditeur et de passeur. Michel m'envoie sa lettre que vous retrouvez dans le livre avec le petit avion, la lettre manuscrite. Et puis il m'envoie une nouvelle de 20 pages. Je lui dis, ça va pas la nouvelle de 20 pages. C'est trop long. Et puis pourquoi diable écrivez-vous une nouvelle pour raconter une histoire vraie? Je lui dis, écoutez, il y a des vibrations dans votre nouvelle. Je veux vous obliger à rien, mais je sens que vous avez la capacité de faire quelque chose. Vu ce qui vous est arrivé, et que je vais vous raconter, vous résumer en 3 lignes, votre père n'est plus de ce monde. On est en octobre 2008. Écrivez à votre père pour lui dire ce que vous n'avez jamais osé lui dire. Ce qu'il n'avait jamais osé lui dire à son père, c'est très simple. Le père est rentré. Il n'était pas là à Paris lors de la grande fiesta de Vichy au cirque d'hiver avec tous les chanteurs de la collaboration. C'est le seul père qui n'était pas là pour les 40 lauréats parce qu'il avait été coincé avec un pépin administratif à la frontière. Alors le petit Michel et sa mère reviennent à Lyon, mais vraiment complètement ravagés, désespérés. Et puis le lendemain matin, aux aurores, dans le quartier du Vieux Cuir à Lyon, on sonne à la porte. C'est le père qui rentre. Il avait été coincé, il est débloqué, il rentre. Et là, le petit garçon va déchanter. Il voit arriver un type habillé en prisonnier de guerre qui va rentrer tout habillé dans le lit de sa mère. Ce type, c'est un intrus. Le petit Michel Hébric, depuis le début de la guerre, il est le roi dans sa famille, choyé par sa mère, par ses tantes, par ses grands-mères, par une employée de maison. Il est le petit roi. Et là, d'un seul coup, un homme revient, va lui voler sa place de petit homme. Et cet homme, pendant les premières années, il va le détester. Et quand cet homme, qui ne rentrera pas dans son stalag, qui va se cacher dans le Jura, attendre la fin de la guerre, quand pendant les vacances, il lui apprendra à nager, le petit Michel va penser que son père essaye de le noyer pendant 1 an, 2 ans. Et il va mettre 3, 4 ans pour réapprendre à aimer son père. Et il a écrit une lettre que vous trouverez dans la deuxième partie où la priorité est donnée non plus aux illustrations mais au texte, dans la deuxième partie de Paroles de l'ombre. Vous verrez la lettre que le petit Michel a écrite en octobre 2008. Cette lettre à son père. C'est une de mes plus belles expériences de passeur parce que vous verrez que Michel raconte l'histoire que je viens de vous raconter avec beaucoup plus de talent que je ne viens de le faire.
Là, on est à la limite, je dirais, de la psychanalyse et de l'histoire, avec ce petit garçon qui prend la place du père. Et en tout cas, je pense que ça montre assez bien que pendant la Seconde Guerre mondiale, les civils ont été aussi les grandes victimes de ce conflit. Beaucoup plus, je crois, pour la Première Guerre mondiale, où effectivement, il y a eu cette boucherie des soldats. Là, dans la Seconde Guerre mondiale, les civils ont été en première ligne aussi avec les bombardements, voilà. Et le livre rend hommage aussi à tous ces civils.
Il rend hommage à ces civils et il ne cache jamais la part d'ombre. Vous parliez tout à l'heure de ces gens qui n'étaient pas dans le bon camp, qui étaient dans l'autre. Je ne peux résister au fait de vous lire le témoignage d'un lycéen triomphant. Pour ceux d'entre vous qui ont vu un film qui est resté célèbre, qui avait pour titre « La Combe Lucien », eh bien le garçon qui signe ce témoignage, c'est un petit Lacombe Lucien.
Avec Michel Serrault.
Oui. On tombe sur une patrouille allemande qui se met en batterie sur nous. Aussitôt, j'ai crié « Französische Miliz !» Ils ont compris. Je me suis expliqué avec leur sous-officier qui s'est mis à ma disposition pour attaquer en ligne de bataille. Je l'ai guidé. Et sur mes renseignements, nous avons fouillé la campagne. On est dans le Vercors et la milice est avec les nazis et les SS pour essayer de régler leur compte aux résistants. Après avoir patrouillé, je lui ai dit que le type était caché dans les bois, sans doute. Il m'a remercié et nous sommes partis chacun de notre côté. On est très estimés des Allemands et quand ils nous voient, ils viennent nous serrer la main. Dans la nuit d'avant-hier, nous avons pris 3 types. J'étais couché et on m'a fait lever à ce moment. On est parti à 3 dans la nature et à un croisement de chemin, on les a fait passer devant. On a armé nos mitraillettes et sans rien leur dire, on leur a lâché des rafales dans le dos. Ils sont tombés sans faire ouf. Ensuite, j'ai pris mon parabellum et je leur ai tiré une balle à chacun dans la tempe. J'étais content comme tout. Et c'est une petite vengeance bien minime à côté de ce qu'on leur doit. Voilà. Voilà. Ce genre de choses, il ne faut pas l'occulter non plus. Il y a quelques années, quand j'avais publié à la Bibliothèque nationale une anthologie des plus beaux manuscrits liés à l'histoire de France ou liés aux romanciers, où j'avais montré un texte de Robert Brasillach et des gens m'avaient reproché d'avoir donné une tribune à Robert Brasillach. Eh bien, ne pas le faire, c'est anti-éducatif. Il faut rappeler aux générations montantes qu'on peut avoir été l'un des plus grands critiques littéraires de la première moitié du XXe siècle. On peut avoir été un fabuleux écrivain et avoir été simultanément, à un moment donné, la dernière des ordures. Jusqu'à 18 ans, Brasillach est un ange blanc. Entre 18 et 15 jours avant son exécution, il a choisi le côté obscur de la force pour plagier la guerre des étoiles. Il devient la pire des ordures. Et il n'a pas l'excuse d'être idiot car il est hyper intelligent. Et puis 15 jours avant son exécution, il ne s'est pas dérobé, il a assumé ses responsabilités, il redevient un ange blanc. Eh bien, c'est tout le sens des paroles de l'ombre. L'ombre, avec son côté protecteur et son côté maléfique. L'histoire n'est jamais rassurante, je vous l'ai dit. L'histoire est un entrelac très complexe d'ombre et de lumière, de fange et de ciel. Et il faut toujours le rappeler.
Mais je pense, voilà, que votre livre est vraiment un apport aussi à la recherche historiographique à ce niveau-là, parce qu'on voit bien toute l'ambivalence des destins individuels qui se sont accumulés et qui a fait aussi l'ambivalence de la France occupée. On a bien compris que vous étiez plus qu'un historien, un passeur d'histoire, de mémoire, et aussi un homme de lettres, puisque vous êtes tout à fait sensible à la qualité des témoignages littéraires. Vous avez dû écrémer des centaines de manuscrits. Vous les avez choisis aussi pour leur qualité littéraire. Est-ce que vous pourriez nous dire, pour terminer cet entretien, à quoi sert l'histoire aujourd'hui, dans le monde actuel ? À quoi ça sert pour les jeunes générations, les moins jeunes, de relire tous ces textes ? Est-ce que ça a encore un impact, vous pensez, malgré toutes les informations, nous nous sommes bombardés chaque jour ?
Ben, je pense qu'elle a... elle peut avoir un effet essentiel. C'est qu'elle nous enseigne quelque chose qui va contre les idéologies qui ont fait que l'ombre s'est enracinée dans le monde entre 39 et 45. Et elle va, cette histoire, contre la résurgence de certaines queues de comètes de ces idéologies, même si parfois elles sont véhiculées par des gens qui n'ont rien à voir avec ceux qu'on a pu dénoncer. Ce que j'ai appris à travers Paroles d'étoiles, ce que j'ai appris à travers un livre qui avait pour titre « Cher pays de mon enfance, paroles de déracinés » et qui nous rappelle que nous sommes tous des enfants de déracinés, d'une façon ou d'une autre, ce que m'a appris Paroles de l'ombre, c'est que nous ne sommes riches que de l'agrégation de nos différences. Il n'y aurait rien de pire qu'une société dans laquelle nous serons tous les clones de nos clones et dans laquelle tous les gens seraient blonds avec des yeux bleus ou bruns avec des yeux noirs. Nous ne sommes riches que de l'agrégation de nos différences. N'importe quel étudiant en BTS de démographie sait très bien que s'il n'y a pas dans les vieux pays d'Europe de grandes vagues migratoires dans les 20 ans à venir, nous finirons comme des diplodocus. Et si aujourd'hui un pays comme la France est vital sur le plan économique et démographique, c'est parce que depuis 2 siècles, ça a toujours été un pays d'accueil. Ça a toujours un pays qui est allé chercher à l'extérieur de ses frontières la vivacité démographique dont il avait besoin. Je voudrais vous dire aussi que cette aventure, elle continue pour l'année qui vient, et ça s'adresse à vous, Eh bien, nous n'avons pas donné un thème historique ou sociologique avec mon éditeur Laurent Beccaria à nos témoins. On leur demande pas cette année de nous envoyer les plus belles lettres sur tel ou tel segment de l'histoire ou sur telle ou telle catégorie de la population. On leur demande tout simplement de nous envoyer les plus belles lettres qui dorment dans leurs archives ou dans leur tête. C'est à la fois un appel aux archives, c'est aussi un appel à l'écriture. En faisant une opération de ce genre, il y a 15 ans, sur un tout petit échantillon de personnes, j'ai hérité d'une lettre que j'ai publiée et que je republierai, écrite par une certaine Yvonne, le 11 novembre 1920. La date ne s'invente pas. Yvonne écrit ce jour-là à sa meilleure amie Madeleine, pour lui dire « Ma chère Madeleine, tu vas être très étonnée de ce que je vais te dire. On vient de me fiancer ce dernier week-end avec le capitaine Charles de Gaulle. Et suis... » Elle est magnifique à l'époque, Yvonne de Gaulle. Elle a 17 ans, 18 ans, je peux vous dire qu'elle est belle comme le jour. Et suit le portrait du futur avec lequel on vient de la fiancer. Les mariages sont des mariages arrangés à l'époque. Et le portrait qu'elle trace prouve qu'elle n'est pas insensible au charme du grand jeune homme, dont elle sous-estime encore un peu la taille. Alors, si vous avez des lettres étonnantes, qui peuvent être des lettres écrites par des célébrités qui n'en étaient pas encore, ou des lettres écrites... et qui soit en phase par vos ancêtres ou par vous-même, qui soit en phase avec l'histoire, ou encore des très belles lettres dont vous êtes fiers, ou encore des lettres que vous n'avez jamais osé écrire, eh bien, vous nous les envoyez. Il y a une adresse mail qui est simple, jpgueno@wanadoo.fr, ou alors vous faites sur un site internet paroledelettres.fr, et là, vous trouverez une adresse postale, parce que quand même, on peut aussi... Tout ne passe pas par internet. Envoyez-moi les plus belles lettres qui dorment dans vos archives, envoyez-moi les plus belles lettres qui dorment dans vos esprits, et j'espère que le résultat, dans un an, ne vous décevra pas.
Voilà, l'appel est lancé, il ne tient qu'à vous de renvoyer la balle. Est-ce qu'il y a des questions, maintenant, si le public veut intervenir et poser des questions à Jean-Pierre Guénot, à la fois sur l'aventure éditoriale, la saga des Paroles 2, ou précisément sur Paroles de l'ombre ? Toujours un petit peu difficile de prendre la parole, mais n'hésitez pas.
Pendant que vous concoctez vos questions, je vais vous lire quelques lignes hallucinantes parce que l'homme dont on va parler est un voyant. Ça sert de conclusion à Parole de l'ombre. De Gaulle, en 41, réunit la communauté française à Oxford. Et De Gaulle dit aux Français et au reste du monde, évidemment, le premier problème... va consister à gagner la guerre. Il faut d'abord, dans un premier temps, régler son compte au nazisme. Mais le deuxième problème, et ça sera peut-être bien longtemps après la guerre, ce sera de gagner la paix. Et voilà ce que De Gaulle dit à la communauté française réunie à Londres en 1941. Si complète que puisse être un jour la victoire des armées, des flottes, des escadrilles, des nations démocratiques, si habiles et prévoyantes que se révèle ensuite leur politique vis-à-vis de ceux qu'elles auraient cette fois encore abattus, rien n'empêchera la menace de renaître, plus redoutable que jamais. Rien ne garantira la paix. Rien ne sauvera l'ordre du monde. Si le parti de la libération, au milieu de l'évolution imposée aux sociétés par le progrès mécanique moderne, ne parvient pas à construire un ordre tel que la liberté, la sécurité, la dignité de chacun y soit exaltée et garantie, au point de lui paraître plus désirable que n'importe quel avantage offert par son effacement. On ne voit pas d'autre moyen d'assurer en définitive le triomphe de l'esprit sur la matière. Le triomphe de l'esprit sur la matière. Car en dernier sort, c'est bien de cela qu'il s'agit. Et ce qui est fascinant dans les textes qui suivent, dans les discours radiophoniques de Gaulle, c'est que dès 1941, De Gaulle dit à 30% « il faut gagner la guerre », mais à 70% il dit « il faudra gagner la paix ». Il nous décrit la société de l'après l'an 2000 et il nous dit et y a déjà à cette époque-là la préfiguration de la sécurité sociale, du vote au suffrage universel, du vote des femmes, de la participation des gens modestes au capital de leur entreprise et de la décentralisation. 41-42, c'est hallucinant.
Oui, c'est d'ailleurs une des premières mesures de De Gaulle au moment de la libération, c'est le vote des femmes, tout de suite.
Voilà, tout à fait. Et ce qui est fascinant, il y a eu un rendez-vous manqué dans l'histoire entre De Gaulle et Saint-Exupéry, mais ce qui est fascinant, c'est de voir que De Gaulle avait lu Saint-Exupéry dans le texte dans les années 30, et qu'il nous dit dès cette époque que le grand enjeu, ça sera d'arriver à faire que la société de masse n'écrase pas l'individu, dans quoi vivons-nous depuis l'an 2000, que la société de masse n'écrase pas l'individu, et je le répète, que l'esprit triomphe sur la matière.
Alors, je dis un mot de Saint-Exupéry parce que vous avez un panthéon personnel et Saint-Exupéry en fait partie. Antoine de Saint-Exupéry, vous sortez en même temps que Parole de l'ombre aux arènes, aux éditions Jacob Duvernay, La mémoire du petit prince. Vous replongez dans la vie d'Antoine de Saint-Exupéry grâce à des documents de sa famille qui vous ont permis de rentrer dans la vie de Saint-Exupéry à travers des archives très très personnelles, des photographies et puis des extraits du Petit Prince qui mettent en lumière les images.